plus vous étudierez la Bible, plus vous aimerez la Bible, plus vous vous ferez l'effort d'essayer de comprendre la parole de Dieu, de comprendre les choses de Dieu, plus vous allez être touché et être béni par elle. On va ouvrir ensemble notre Bible dans un texte qui n'est pas très difficile à trouver, puisqu'il s'agit du chapitre 1er, du livre 1er au verset 1er. Théoriquement, ça devrait être faisable. Genèse 1:1. Genèse 1, verset 1er. Je ne sais pas combien d'entre vous, à l'époque, ont vu un film un peu bizarre de science-fiction qui s'appelle Matrix. Il y en a beaucoup qui l'ont vu ici. Confessez vos péchés, là. Non, ce n'est pas un péché. Matrix, c'est... En anglais, le mot qui, en français, est traduit par « matrice ». Suivez bien. Ça va être un peu bizarre au début, mais si vous vous accrochez pendant les 5 premières minutes de ce message, après, vous vous sentirez plus intelligent. En fait, dans ce film, il part d'une idée qu'il peut y avoir un système, quelque chose qui est le cœur et qui contrôle toute la vie sur la Terre. Dans ce film, la matrice est quelque chose de négatif. Puisque, d'ailleurs, ça peut ressembler assez bien. Moi, je sais que quand j'avais vu ce film, assez bien ce que peut être la matrice du péché et comment le péché aveugle les personnes et les fait vivre dans un univers parallèle avec des joies, avec le sentiment de plaisir, etc. Cette course vers la richesse, vers le bien personnel. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont menés par le bout du nez, par un système qui est un système antichrist. Mais je voudrais vous parler cette fois-ci, non pas de la matrice du diable, mais je voudrais vous parler de la matrice de la vie telle que Dieu l'a créée. Et cette fois-ci, c'est quelque chose de positif. La matrice divine. En fait, je pense que, et ce message, même s'il paraît compliqué au départ, ça va s'éclairer progressivement. La Bible est un livre qui rassemble 66 livres. Et tout est harmonieusement préparé par Dieu pour que tu puisses comprendre d'où vient la source de la vie. Et en latin, c'est de là que vient le mot matrice. Ça vient du mot mater, la femme. Il n'y a que la femme qui donne la vie. C'est du ventre de la femme que la vie vient. Et c'est de là qu'est l'origine du mot la matrice. C'est la source de la vie. C'est de là que la vie va exploser et un jour pouvoir sortir et exister sur la terre. Et c'est exactement pareil. Et moi, ma question ce matin, c'est de comprendre d'où est-ce que vient la vie et la puissance de Dieu réside où ? Alors, quand on lit dans Genèse 1:1 ensemble, on lit juste le premier, le deuxième et le troisième verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. On va faire deux choses ce matin. Je vais essayer de vous la connaissez. Vous connaissez la matrice en fait, mais vous l'avez appris sous un autre nom. Et je veux vous faire redécouvrir une vérité fondamentale et ça vous oblige quelque part à réfléchir parce qu'il y a quelque chose de Dieu derrière. Écoutez bien, qu'est-ce que la matrice ? C'est quoi la source de la vie ? D'où est-ce que vient la puissance de Dieu ? Où est-ce que cette matrice ? Et on tourne maintenant, cette fois-ci, dans le Nouveau Testament, et on va encore rester dans des choses assez simples à trouver, d'accord ? On va aller dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 1. Et après, pour complexifier la chose, une fois qu'on aura été dans Jean 1:1, on ira dans Marc 1:1, et ensuite, on ira dans Luc 1:1 et on terminera avec Matthieu 1:1. Vous retenez les références. Hein. En fait, c'est le premier verset de la Bible que l'on a lu dans la Genèse. Maintenant, on va lire le premier verset de chaque évangile. Le premier verset de chaque évangile. On prend l'évangile de Jean. Au commencement était la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Au commencement était la parole de Dieu. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Allez, on avance d'un évangile, on va dans Luc 1:1. Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous d'après les rapports, donc d'après les témoignages, de ceux qui ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. Maintenant, vous tournez dans Marc 1:1. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, « J'enverrai mon messager devant toi et il te préparera le chemin. » On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Quel est le point commun avec tous les textes, entre tous les textes que l'on a lus? À chaque fois, il est dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, Dieu dit, et la lumière fut. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça fait bizarre. Vous êtes encore avec moi là? La matrice, enfin le mot tel qu'il est en hébreu, c'est dabar, en grec c'est logos, et ça veut dire la parole vivante de Dieu. En fait, tout l'univers, tout ce qui existe sur la terre, a été créé à partir d'une seule matrice, d'une seule source de vie, et cette source de vie, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez que tout ce qui existe sur la terre, de la lumière, les astres en ciel, la puissance des étoiles, votre corps, parce qu'il a créé Adam, Dieu dit, Dieu souffle, et du souffle de la parole de Dieu, tout naît de là. Et maintenant, dernier texte, on lit avec Matthieu 1:1. Restez avec moi, ça va devenir logique. Matthieu 1:1. Voici la généalogie de Jésus-Christ. Dans ma version, il est marqué « fils de David, fils d'Abraham ». Qu'est-ce que vous avez, vous? Descendant de David et d'Abraham. On s'arrête là. Seigneur, merci de pouvoir toucher nos cœurs. On veut comprendre qu'est-ce que tu as pour nous ce matin et que le Saint-Esprit maintenant puisse éclairer mon intelligence, puisse éclairer mon entendement. Seigneur, je ne veux pas être plus sage aux yeux des hommes. Je veux comprendre les mystères de ta parole. Je veux qu'elle puisse pénétrer maintenant dans mon âme, que je puisse être un enfant instruit de Dieu. Seigneur, quelle que soit la raison pour laquelle on est venu ce matin, on a besoin de comprendre ce que tu veux nous dire. Seigneur, parle à ton peuple, Seigneur. Amen. Amen. Alors la matrice, vous l'avez compris, c'est la parole de Dieu. Ce qui est à l'origine de la vie, c'est la parole de Dieu. Toute vie existe et ne peut exister que par la parole de Dieu. Maintenant, quand on a dit ça, à quoi ça sert dans ma vie? Parce que ça veut dire que Dieu est lointain, que Dieu est en haut. Et si Dieu est en haut et qu'il a tout créé, moi je suis après un des chaînons parce que ma maman a rencontré mon papa. Ils ont fait un bébé qui s'appelle Ivan et puis eux-mêmes, je ne sais pas par quel hasard, ont existé parce que un homme et une femme, etc. Et vous remontez et vous arrivez à la fin à Adam et Ève, on est d'accord? Mais je suis tellement loin par rapport à la matrice originelle. Toute la Bible, écoutez bien ça, toute la Bible a été écrite pour que vous puissiez entendre la parole de Dieu. En fait, le seul but de Dieu, depuis la nuit des temps, depuis la création de l'être humain, Dieu parle et il cherche un homme, une femme sur la terre qui est prêt à connecter et dire « Je veux rentrer, je veux accepter la vie de Dieu en moi. » Quelque part, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme si la personne disait « Je veux rentrer en contact avec la matrice. Je veux que la vie de Dieu, je veux une transfusion de la vie de Dieu. » Comme si vous aviez une clé qui vous permet de rentrer et qui fait de vous un enfant de Dieu. Et qui fait de vous un connecté avec Dieu. Et c'est toute l'histoire de l'homme, c'est ça. Quand vous commencez le livre de la Genèse, si vous réalisez bien ce que je suis en train de dire ce matin, tout le livre de la Genèse, c'est Dieu qui essaye de connecter avec les hommes. Et le péché va venir dans le jardin et va casser la connexion. Et depuis, tous les êtres humains vont certains n'en auront rien à faire de la connexion avec Dieu. Et puis Dieu va chercher des hommes et des femmes comme Noé, etc., dans la nuit des temps, qui sont prêts à écouter une parole de Dieu, à avoir une foi dans la parole de Dieu, parce que la seule, écoutez bien, la seule clé qui vous permet de rentrer et d'avoir de connecter avec Dieu, d'avoir la vie de Dieu, c'est la foi. Alors, comme ça vous paraît, pourquoi il dit ça le pasteur? Qu'est-ce qu'il prouve? Je ne veux pas faire une prédication philosophique qui ne sert à rien ce matin. Je veux que vous compreniez que quand il est écrit, dans Matthieu 1:1, voici la généalogie de Jésus-Christ. Il est présenté comme le fils d'Abraham. Pourquoi Jésus est présenté comme le fils d'Abraham? Parce que Abraham est le père des croyants. Et parce que avant même que la loi ne soit donnée à Moïse, Abraham a été le premier, celui qui allait le plus loin dans la foi en Dieu. Et c'est pour ça que Abraham a connecté avec Dieu et qu'il s'est passé quelque chose que l'on lit ensemble dans Genèse 12. Dans Genèse 12, au verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, à l'époque, vérifiez bien l'écriture, comment ça s'écrit Abraham? A-B-R-A-M. Ah tiens, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. L'Éternel dit à Abraham. À l'époque, ça s'écrit en 5 lettres. Va, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Dieu a parlé à Abraham. Le Logos, une parole de vie. J'ai une parole pour ta vie, Abraham. Je veux connecter avec toi. Tu attrapes la parole ou tu ne l'attrapes pas. Et Abraham, au verset 4, partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé. Et là, tout d'un coup, Abraham a mis sa foi et a connecté avec Dieu. Il a mis sa foi dans la parole de Dieu et il s'est passé quelque chose de spirituel. Ça peut pas se voir, je sais pas si on avait des faisceaux laser, si on pouvait voir des choses spirituelles comme ça, mais en tout cas, il y a une connexion. Quand Abraham a mis la foi et qu'il a dit « Je crois Dieu », il est devenu, il s'est passé quelque chose. Et il s'est passé quelque chose qui fait que Dieu dit à Abraham, je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Ça veut dire que ma matrice de vie, je la mets sur toi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que Abraham, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, va commencer à donner la vie et ça, avec Sarah et ça continue. Je te bénirai, donc je ferai de toi un homme important, tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui t'outrageront et tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Oh, wow. Parce qu'un homme a connecté. Parce qu'un homme a dit, je crois la parole de Dieu. Je connecte avec Dieu. Si tu entends un jour la parole de Dieu, la parole de Dieu au départ, elle ne va pas toujours dans notre sens. Parce qu'il commence Dieu en disant, Abraham, le premier verbe, c'est tu pars, quitte. Or, naturellement, l'inverse de la foi, c'est contrôler ta vie. L'inverse de la foi, c'est de dire, je n'ai pas besoin de Dieu, je gère tout seul. Je contrôle, je dirige. Et vous aimez contrôler. Regardez-vous les mesdames là, dans la salle. Combien vous avez besoin? Et c'est quelque chose de naturel. Parce que on a tendance à vouloir tout contrôler. À vouloir se dire, la vie vient de nous, je contrôle mes bébés. Je vais contrôler leur vie, je vais éviter qu'il leur arrive du mal. On veut tout contrôler. Et pourtant, Le test qui fait qu'on connecte avec Dieu, c'est dire « Dieu, je crois ta parole et je mets ma foi en toi ». Et ce qui se passe, c'est que Abraham va avoir un changement de nom. À partir du moment où il va mettre la clé, c'est-à-dire où il va dire « Dieu, je crois », même si ça m'oblige à me jeter dans le vide et de te faire confiance. La foi, c'est une confiance absolue en Dieu. La foi, c'est rien d'autre qu'une confiance absolue en Dieu. La foi, c'est une confiance absolue en Dieu, rien d'autre. La foi, nous dit le livre des Hébreux, c'est l'assurance dans les choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, c'est croire que Dieu a prévu de bonnes choses pour nous à l'avance. Eh bien, plus vous vieillissez, et plus des fois vous avez tellement peur de l'avenir que vous doutez de Dieu, vous doutez que Dieu ait prévu de bonnes choses pour vous, vous doutez de plein de choses. La foi, c'est une confiance absolue en Dieu. Et du coup, Dieu va changer le nom de Abraham et il va dire « Abraham, je vais te renommer Abraham ». Et Abraham, le premier, en cinq lettres, veut dire « Dieu est en haut ». Ouais, ben, j'ai pas de connexion avec lui. Dieu est dans le ciel, moi je suis sur la terre. Mais à partir du moment où Abraham a cru, il a changé de nom et on l'a appelé Abraham, qui veut dire le père d'une multitude. Bienvenue, tu as connecté avec la source de la vie. Et à partir de maintenant, la vie de Dieu est en toi. Et je ferai de toi une grande nation et les peuples de la terre seront bénis par toi. Qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé, mes amis? Qu'est-ce qui fait que tu es sauvé aujourd'hui? Uniquement, tu es sauvé sur la base de la foi. Sur la base de la foi. Pendant des années, c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. Les hommes ont essayé d'écouter la parole de Dieu. Mais on va le voir un peu plus loin. Ils ont tout le temps vrillé. Ils ont tout le temps essayé de reprendre le contrôle. Parce qu'ils avaient énormément de mal à faire confiance à Dieu. Vous lisez le livre de l'Exode, vous voyez comment les Hébreux, qui sont un peuple extraordinaire, ont du mal à faire confiance à Dieu. Naturellement, on veut reprendre le contrôle et on veut rediriger. Quand on traverse un désert, quand on traverse une épreuve, lorsque tu te trouves sur un lit d'hôpital, lorsque tes enfants ne vont pas bien, lorsque ta situation financière ou ton mariage est en difficulté, immédiatement tu cherches à reprendre le contrôle. Et c'est très difficile de faire confiance et d'avoir la foi. Et c'est l'histoire de tout l'Ancien Testament, jusqu'au jour où, dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, il dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Et au verset 14, il dit « Celui qui était la parole est devenu chair. » Dieu a amélioré, a rendu encore plus accessible la matrice. Il a dit « Étant donné qu'ils n'écoutent pas, à part quelques-uns comme Abraham, je vais connecter avec eux et je vais leur donner un moyen encore plus évident de m'entendre. Je vais envoyer mon fils, le fils unique de Dieu, issu de la matrice, issu de Dieu, Dieu né de Dieu. Et je l'envoie, lui le Logos, lui qui est la parole vivante de Dieu. Et je l'envoie sur la terre. Et Jésus va aller de village en village, dans les synagogues et dans les endroits où il y a de la prostitution. Il va aller partout sur la terre et il va dire, écoutez, le royaume de Dieu vient vers vous. Il y a une connexion divine qui vient vers vous. Acceptez-vous la connexion divine. Est-ce que vous avez envie de devenir des enfants de Dieu? Parce que c'est ça qui est écrit dans Jean. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Jésus vient sur la terre et il essaye de connecter. Et c'est tellement plus simple. On est des enfants de la grâce. Parce que la capacité d'avoir accès à la parole de Dieu révélée en Jésus aujourd'hui, elle est extrêmement, extrêmement facile par rapport à ce que c'était. Lisez dans Romains 3, cherchez pas, je voulais juste le dire, dans Romains 3, verset 28. « Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il y ait à accomplir les œuvres qui exigent la loi. » Éphésiens 2, 8. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé, c'est-à-dire qui mettra sa foi dans la parole de Dieu, sera sauvé. Si tu crois de tout ton cœur, que Christ est mort et ressuscité, alors tu es sauvé. C'est incroyable! En fait, c'est extrêmement simple. Pendant des dimanches, des prédications, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il faut pour que je sois sauvé? Qu'est-ce qui fait que je peux avoir une connexion avec Dieu? La foi! Simplement croire de tout ton cœur que Dieu, qui est une parole vivante, t'aime, qui veut connecter avec toi, et que tu écoutes sa parole, et que tu la saisisses en disant, comme Abraham, Abraham partit sur la parole de Dieu. C'est que la parole, hop, tu connectes avec la foi et la parole de Dieu rentre en toi. Alors vous savez qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez accès à ce trésor de vie qu'est la parole de Dieu. Quand vous connectez et que la foi vous fait rentrer dans la matrice de la parole de Dieu, immédiatement le diable s'énerve. Et c'est le deuxième point. Le premier point, c'est en gros la matrice de points, c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu, pendant des années, elle était simplement, ponctuellement envoyée sur la terre. Et puis en Jésus, bing, la puissance de la parole de Dieu. Mais maintenant, deuxième point, les attaques. Éphésiens 6, on va lire ensemble Éphésiens 6, verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Je ne sais pas si j'ai toute la salle avec moi ce matin. C'est plus abstrait que d'habitude. Je n'ai pas de personnage aujourd'hui à analyser. Mais si tu arrives à comprendre cela, c'est extraordinaire. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur, dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais des puissances, contre des autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse, ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix et en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Là, on a un autre mot possible, l'épée de l'esprit. Un autre mot pour le logos. Il y a deux types d'attaques. En fait, le diable, il se dit, comment je peux faire pour que tu ne rentres pas, toi personnellement qui es là en train d'écouter ce message. Comment le diable peut faire pour que tu ne rentres pas dans la vie de Dieu, pour que tu ne sois pas au bénéfice de cette source extraordinaire qu'est la parole de Dieu? Eh bien, il va essayer deux types d'attaques, des attaques externes, des attaques internes. Les attaques externes, c'est il va essayer de mettre des circonstances, des personnes, des choses dans ta vie qui vont te faire douter. Parce que le doute, c'est casser la clé. Quand tu doutes, en fait, ça casse la clé de la foi. Or, comme la clé de la foi, c'est le seul moyen de rentrer en connexion avec Dieu, si tu as le doute, tu ne peux plus connecter avec la matrice de vie, qui est le Logos. Regardez ce qui se passe. Quand vous lisez le chapitre de la Genèse, au chapitre 3, ça commence comme ça. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du jardin. Le serpent vint voir Ève, qui certainement, comme toutes les personnes, avait besoin de contrôler sa vie. Et il lui dit quoi ? Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce que tu es vraiment sûr que Dieu fait concourir toutes choses pour ton bien ? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu n'as pas le droit de faire ça ? Est-ce que tu es vraiment sûr que Dieu va pourvoir à tous tes besoins selon sa richesse ? Est-ce que tu es vraiment sûr que Dieu va te donner une abondance dans ta vie sentimentale ? Est-ce que tu es vraiment sûr que ça vaut la peine d'aller aux réunions et de pouvoir prier comme ça? Est-ce que tu ne perds pas ton temps? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu ne donnes pas ton argent pour rien? Est-ce que tu es vraiment sûr? Ben non, je ne suis plus trop sûr alors. Mais en fait, ça ne sert à rien de lire ma Bible. Et mais en fait, Dieu ne répond pas à mes prières. Alors je suis seul. Non, tu n'es pas seul. Tu viens de casser ta clé. Alors effectivement, ta connexion avec Dieu est en grand danger. Parce que le diable est en train d'essayer de casser ce qui te fait rentrer en contact avec Dieu. Alors que Jésus s'apprête à mourir sur la croix. Vous savez, il y a des circonstances dans notre vie où la clé est en danger. Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être certains ici, ce matin, vous êtes venus, mais la clé de votre foi est en danger. Parce que vous êtes vraiment éprouvés. Simon-Pierre, à ce moment-là, au moment où le texte est écrit, quelques heures avant, il venait d'avoir une parole de Dieu vivante qui s'était réalisée pour lui. Il était écrit dans le livre des prophètes que Jésus viendrait, enfin que le Messie viendrait sur un âne, le petit d'une ânesse. Et Simon, personnellement, est allé avec quelques copains et ils ont trouvé tout comme Dieu l'avait dit. La parole de Dieu était vivante, elle était écrite, c'était juste génial. Ils ont ramené l'anneau. Jésus est rentré dans Jérusalem. Hosanna, gloire à celui qui vient. Gloire à celui qui vient au nom du Seigneur. Et Simon dit, c'est génial, le Logos, la puissance de Dieu. C'était écrit, c'est la vie. Et quelques minutes après, Jésus le prend à part et lui dit, Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue du blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne vienne pas à manquer, ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. En fait, tout ce que vous avez à protéger dans votre vie, tout, si j'avais qu'un seul message à vous dire, si j'avais une seule phrase à vous dire, pour toutes les prédications que vous entendrez toujours dans votre vie, c'est surtout garder la foi. Parce que la foi, c'est votre connexion avec Dieu, c'est ça qui vous sauve. Alors qu'il s'apprête à mourir en prison à Rome, l'apôtre Paul écrit aux Philippiens, « En ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une offrande pour Dieu. Le temps de mon départ est arrivé, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Terminé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. C'est tout ce que je veux dire au ciel avant de partir. L'apôtre Paul dit pas, il y a eu plein de miracles, c'était génial ce qui s'est passé à Colosse, à Laodicée. Je lui rappelle cette femme, waouh, qu'est-ce que c'était bien, elle s'est mise à marcher alors qu'elle était paralysée, etc. Non, il dit, moi franchement, si j'ai une phrase à dire, j'ai gardé la foi. La couronne de justice m'est réservée. Les principales attaques externes essayeront de casser la clé, de casser ta foi. Dernier point. Il y a d'autres types d'attaques. Il y a un autre type d'attaque, c'est l'attaque interne. Et c'est quelque chose de très, très sournois que l'on peut vivre dans les églises évangéliques. Et le pire, c'est qu'on n'analyse pas combien c'est dangereux. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous lire ça. Jésus entra dans la ville de Jéricho. Cherchez pas, je vous dis juste, c'est dans au chapitre 19. Ça concerne Zachée. Or, il y avait là un homme, une personne nommée Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Il courut en avant et grimpa sur un sycomore, un arbre, donc, pour voir Jésus qui devait passer par là. Zachée essaye de connecter avec Dieu. Écoutez la suite. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. J'ai vu ta foi, Zachée, et je veux connecter avec toi. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Il disait, voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Ah ! Parce que lui aussi est rentré et a connecté avec la matrice. parce que Zachée a eu la foi. Et donc Zachée, ce jour-là, est connecté à Dieu, à la source de vie, et il rentre dans la grande famille des croyants. Le salut est rentré ce jour-là dans Zachée. Est-ce que vous comprenez ? Qu'est-ce qu'a fait Zachée ? Rien ! Combien il a redonné aux pauvres ? Au moment où il parle, combien il a redonné aux pauvres ? Rien ! Au moment où Jésus lui dit « Tu es sauvé », Zachée n'a encore rien fait. Vous avez déjà, jamais vu ça, vous ? Vous voyez, certains pasteurs vont dire « Oui, c'est parce qu'il a donné ça et tout ça ». Non ! Au moment où Dieu lui dit « Tu es sauvé », il n'a pas encore exécuté sa promesse. Il a simplement mis sa foi en Dieu. Ce n'est pas parce qu'il va faire ceci ou cela qu'il va devenir sauvé. C'est parce qu'il a cru et parce qu'il est donc un enfant d'Abraham. Et parce que tu es un enfant d'Abraham, après tu fais des bonnes œuvres. Mais ce n'est pas la cause, c'est la conséquence. Alors, quelle est l'attaque ? Vous savez pourquoi la Bible précise il est lui aussi un fils d'Abraham ? Parce que les Juifs, et c'était tout le conflit que Jésus a eu avec les pharisiens de l'époque. Les pharisiens disaient, nous sommes des fils d'Abraham. Vous vous rappelez ? Même Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il vient vers lui, les pharisiens, ils lui disent, on veut se faire baptiser. Jean-Baptiste, on dit, race de vipère ! Qui vous a appris à fuir la fureur de Dieu ? De ces pierres, Dieu peut faire naître des fils d'Abraham. Si vous n'avez pas la foi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le peuple juif, qui est un peuple extraordinaire, pourquoi ce peuple est béni ? Parce que ce peuple bénéficie d'une alliance entre le grand, 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 grand papa, Abraham, et Dieu. Et Dieu a fait une promesse. Et il a dit, je vais bénir ta descendance et ton peuple sera béni. Je vais bénir tes enfants, les enfants de tes enfants et les arrière-arrière-arrière-arrière petits-enfants. Et il y a une bénédiction de Dieu qui coule parce qu'ils font partie de la matrice. Sauf que, on voit quand même dans l'histoire d'Israël, que lorsque le peuple, si vous croyez que c'est uniquement à cause de votre ADN, parce que vous êtes le fils de quelqu'un que vous êtes sauvé, c'est pas bon. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, non, 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 vous avez rien compris. La bénédiction spirituelle qui repose sur Abraham et qui descend vers vous, c'est une bénédiction qui est basée sur la foi. Qui est une bénédiction qui est basée sur la foi. Et toute personne, juif ou non juif, qui croit, a accès à la vie en Dieu. Dans Romains 3, il y a un passage extraordinaire là-dessus. Romains 3, extraordinaire. Voici donc, verset 28, ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il y ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des juifs ? N'est-il pas aussi le Dieu des non-juifs ? Bien sûr, il est aussi le Dieu des non-juifs. Car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les juifs en raison de leur foi et qui justifie aussi les non-juifs au moyen de leur foi. Amen. Normalement, vous auriez dû dire amen. Parce que c'est ça qui vous sauve, mes amis. Il y a très peu de juifs parmi nous. Et c'est votre foi qui fait que vous connectez et vous devenez des enfants d'Abraham et que vous rentrez dans la généalogie de Christ. Alors c'est quoi cette attaque interne ? Cette attaque interne, c'est cette tendance que nous avons tous à croire que pour plaire à Dieu, il faut faire les œuvres de la loi. Vous ne savez pas combien de personnes, quand j'ai en entretien de baptême, qui me disent « Je ne sais pas si je suis sauvé, parce que je ne fais pas ça, parce que je ne fais pas ça, parce que là-dessus, je ne sais pas si... » Ils se rongent les ongles plus que moi, parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur salut. Mais vous voyez, si tu crois que Christ est la parole de Dieu et que tu le fais rentrer dans ton cœur par le moyen de la foi, tu es sauvé. Point barre, terminé. Tu es sauvé. Mais le légalisme va te dire, as-tu fait assez ? Est-ce que tu mérites ? Franchement, avec ce que tu as fait avant-hier, tu ne mérites pas. La façon dont tu as parlé à ta belle-mère au téléphone, comment tu t'es énervé sur elle. Je peux te dire, à ce moment-là, le Saint-Esprit était vraiment fâché. Mais ce n'est pas ça qui fait le salut. Ça, c'est la sanctification, c'est autre chose. Le salut, lui, il est basé sur la foi. Tu ne seras pas sauvé par tes œuvres. tu seras sauvé uniquement par ta foi. Et c'est ce qui donne une égalité parfaite entre un petit Japonais qui naît, un petit Somalien, un petit Norvégien, un petit Chilien. Tout le monde a le même accès. Est-ce que tu crois dans ton cœur? Est-ce que tu veux connecter avec Dieu? Tu mets ta foi en Dieu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais tous les légalistes, toutes les religions vont essayer de mettre des cases pour dire « Ah, on a le monopole !» Nous sommes la religion qui permet d'être sauvé. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Que tu sois catholique ne te permettra pas d'aller au ciel. Que tu sois bouddhiste ne te permettra pas d'aller au ciel. Que tu sois protestant, luthérien, réformé, calviniste, pentecôtiste, baptiste, tout ce que tu veux, ça ne te permettra pas d'aller au ciel. Que tu sois musulman, ça ne te permettra pas d'aller au ciel. Ce qui te permettra d'aller au ciel, c'est ta foi. C'est ça qui te fait connecter avec la vie de Dieu. Vous le dites, mais je vous assure que ce n'est pas évident. Je vous assure que ce n'est pas évident. Parce que naturellement, dans une église, quand on vieillit, on essaye de développer un maximum de trucs qui font qu'on dit « Ah, est-ce que la parole de Dieu est bien respectée dans cette église ?» Vous avez jamais entendu ça ?« Ma sœur, tu ne respectes pas la parole de Dieu !» Mais en fait, là, il y a une arnaque. Parce qu'en fait, c'est un contresens sur ce qu'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas la loi. Oh oh, là je vous ai perdu, ça devient vraiment... Attendez, la parole de Dieu, ce n'est pas le catalogue, la redoute des règles spirituelles. Or, au bout d'un moment, tous les pasteurs, tous les responsables de service, tous les dirigeants d'église, au bout d'un moment, ils finissent par croire que la parole de Dieu, c'est un nombre de règles à suivre. Mais non, la parole de Dieu, c'est une personne. Ce qui te sauve, c'est ta foi dans le logos, dans le fait que Dieu te donne la vie et que tu crois dans la mort de Jésus à la croix, que tu mets ta foi dans le Fils de Dieu et que tu dis « je ne vais plus en enfer, je vais au ciel grâce à Jésus ». C'est ça ? Donc en fait, respecter la parole de Dieu dans une église, c'est quoi ? C'est une église qui garde la foi. C'est tout. Ce n'est pas une église qui va rassembler plein de petits principes de ceux qui ne mangent pas du porc ou de ceux qui mangent du porc, de ceux qui ont des cheveux longs, de ceux qui ont des cheveux courts, de ceux qui prient en levant les mains ou de ceux qui prient en ne levant pas les mains, des femmes qui aient du mascara ou qui n'aient pas de mascara, que les hommes aient une boucle d'oreille ou qu'ils n'aient pas une boucle d'oreille. Attendez, là, vous confondez. Vous êtes des très bons pharisiens chrétiens, là. Et moi, je sais, j'en ai été. J'étais un dur, d'ailleurs. Mais il y a un moment où c'est pas ça. La parole, elle est venue sur la terre pour nous donner un accès au ciel. Bien sûr, il y a des lois de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les respecter. Mais ce n'est absolument pas ça qui va faire que tu es sauvé. Hein. C'est à toi de savoir, et le Saint-Esprit dans ton cœur, te fait ressembler à Jésus, mais ça n'a rien à voir avec une parole de Dieu qui serait un catalogue de la redoute. Ça n'a rien à voir, rien du tout. Et beaucoup ont un problème ce matin avec ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça que les églises se divisent des fois. Ah non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis moi, je respecte la parole de Dieu, moi, monsieur. D'accord. Mais c'est qui la parole de Dieu ? C'est la taille des cheveux ou bien c'est Jésus le Fils de Dieu ? Parce que sinon, il y a un problème. Vous comprenez le... Vous ne faites pas avoir. Je ne sais pas si un jour vous serez dans une autre église, mais méfiez-vous, il y a quelque chose de très séduisant et de très rassurant à dire « J'assure, je respecte la loi, je respecte les commandements, je suis donc en contact avec Dieu. » Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce qui fait que tu es en contact avec Dieu, c'est la seule clé de la foi. C'est la seule clé de la foi. Ce qui fait que... Il faut que je termine. Ce qui fait qu'un jour où tu n'es pas bien, un jour où tu es très loin, où tu es très loin comme David lorsqu'il pêche avec Bathsheba, et il est complètement, à ce moment-là, il est perdu. Parce qu'il a joué, il a provoqué Dieu, il est allé trop loin. Et la parole de Dieu fut donnée au prophète Nathan qui lui dit, attention, tu es cet homme. Et David, contrairement à Saül qui lui veut des respects de certaines règles ou pas, David va dire, je laisse tout tomber. Rends-moi la joie de ton salut, je veux reconnecter. Tu es Dieu et je crois que tu as encore des bonnes choses pour moi. Et à ce moment-là, Dieu dit, wow, cet homme-là mérite de rentrer dans ma généalogie. Et je l'intègre à toute cette famille des croyants. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est génial, il n'y a pas que pour les champions. La foi, c'est tellement simple. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Gâchez pas, vous avez raison de venir à l'église. Des fois, on se dit, mais pourquoi on va à l'église? Parce qu'il y a deux façons d'entendre la parole de Dieu. Tu la lis, là, tu vas connecter avec Jésus. Tu vas voir Jésus dans l'évangile. Tu vas dire, waouh, et Jésus va devenir vivant. Si ça reste une lettre écrite que tu ne comprends rien, ça ne sert à rien. Mais demande à Dieu de te révéler sa parole. C'est la logos, la matrice. Et quand tu viens à l'église ce matin, si tu reçois quelque chose de Dieu, la parole devient vivante et tu connectes avec Dieu. C'est bon, ça? On va fermer les yeux ensemble. Mon désir est d'être trouvé en lui, non par une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi. C'est l'apôtre Paul qui écrit ça, hein ? Parce que si c'était vivant, ça vaut rien. Mais si c'est marqué dans le livre, c'est extraordinaire. Mon désir, c'est Paul qui écrit aux Philippiens 3:9, est d'être trouvé en lui alors que tes yeux sont baissés. Est-ce que tu comprends que ta justice ne vient pas de toi-même en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. La justice de Dieu, ce qui fait que tu peux te présenter devant le Père, dépend de ta foi en lui. C'est très concret. Chaque jour, ta foi est menacée. Chaque jour, ta foi est menacée quand, avec les soucis de la vie, tu commences à t'inquiéter pour le manger, pour le boire, comme dirait Jésus, pour les vêtements, pour le logement. Et Jésus dit, si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous. Mais votre Père qui est aux cieux, votre matrice, hein, sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez de rien. Le lendemain suffira à lui-même. Seigneur, je mets ma foi en toi ce matin. Dans tous les aspects de ma vie, aussi bien pour mon salut que pour tous les détails de ma vie, je veux être un enfant de la foi. Seigneur, tu as fait de moi un fils d'Abraham. Je ne suis pas juif à l'origine, mais je suis un fils d'Abraham. Parce que je crois Dieu. Pas seulement je crois en Dieu, non, je crois Dieu dans ma vie aujourd'hui. Qu'on peut terminer ce temps ce matin en rendant gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. On va se lever. J'aimerais qu'on reprenne ce chant qu'on a fait tout à l'heure qui disait « Toi seul es digne ». Alléluia. Il y a zéro gloire à toi. Je suis désolé. Tu es très beau, tu es très belle, mais il y a zéro gloire à toi. Tout vient de ta foi. Alléluia.
L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien, et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes pavis, mon sauveur.
Louange et gloire pour l'éternité, toi seul.